RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Espagne à la découverte de la filière porcine. Une filière qui se porte bien. L'Espagne est le quatrième producteur mondial de porc, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Le secteur porcin là-bas a su évoluer ces dernières années, adoptant le système dit de l'intégration. Les producteurs nouent des partenariats avec de grandes entreprises qui leur sous-traitent l'élevage des cochons en échange notamment d'une rémunération fixe, mais ce modèle n'est toutefois pas sans risque. Industrie porcine, les limites de la réussite espagnole, un grand reportage signé Marine de la Moissonnière.
On est sur les routes de Catalogne, à une centaine de kilomètres de Barcelone. La Catalogne, c'est la province d'Espagne qui produit le plus de porc, plus de 40% de la production nationale. D'ailleurs, on croise régulièrement des camions qui transportent des cochons qui viennent des fermes qu'on voit de chaque côté de la route. On va aller visiter un élevage. Ce matin, on a rendez-vous avec un producteur indépendant. Il en reste plus beaucoup en Espagne. On estime que plus des trois quarts des éleveurs font partie d'un système intégré.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Bien.
Pues bueno, yo me llamo Jaime Bernis.
Je m'appelle Jaume Bernis, je suis éleveur indépendant depuis toujours, j'ai 53 ans. On se trouve dans mon élevage de truies qui compte 1100 bêtes à Alcaraz, près de Lleida. J'ai aussi une exploitation d'engraissement à une dizaine de kilomètres avec 10 000 porcs. Là, on est dans la salle de mise bas. Les truies ont le chauffage et un système de ventilation. En été, il y a des panneaux humidificateurs pour faire baisser la température. Je le dis souvent, ces bêtes vivent mieux que certaines personnes.
Cette salle, c'est votre dernière innovation ?
Oui. Il faut sans cesse investir pour que les animaux se sentent bien et pour que la productivité augmente. Je dis toujours qu'il faut être masochiste pour être éleveur indépendant de nos jours. Être à son compte, c'est un défi de plus en plus difficile à relever. Le plus dur à supporter, ce sont les variations des cours du porc. Quand les prix sont bas, en général, on tient grâce à son patrimoine. On hypothèque sa propre maison ou sa ferme. Sans cela, les banques ne vous prêtent pas d'argent. Et quand les cours sont hauts, ce que l'on gagne, on doit le réinvestir dans notre exploitation parce que chaque année, l'Union européenne définit de nouvelles normes que nous devons respecter.
Nuevas normativas que vienen fijadas por la Unión Europea y que tenemos que cumplir.
Pourquoi continuez-vous alors luchando hoy en día?
Bueno, porque si lo llevas en la sangre, claramente, ¿no?
Parce que j'ai ça dans le sang. J'ai commencé à aider mes parents dans cet élevage quand j'avais 9-10 ans. C'est mon mode de vie, c'est le seul que je connaisse.
El modo de vivendi que tienes es este. Y no conoces otro.
Mais qu'y a-t-il de mal à faire le choix d'un élevage intégré?
Non, es que sea malo estar integrado.
Rien, yo digo, cela n'a rien de mal, mais pour moi, être éleveur ou être fermier, ce sont deux choses différentes. Un éleveur est propriétaire de ses bêtes, de ses installations et surtout de ses idées. C'est lui qui décide comment les mettre en application dans son élevage. Il faut choisir entre la liberté et la stabilité économique, parce que l'intégration, cela permet d'avoir des revenus fixes.
Comment voyez-vous votre avenir?
Mira, voy a pasar a la integración o al alquiler de la granja.
Je vais sans doute louer mon exploitation ou rejoindre le système intégré parce que personne dans ma famille ne veut reprendre mon élevage et parce que je n'en peux plus de cette situation. En fait, je suis épuisé. Je me donne encore entre 6 mois et 2 ans.
Puede estar en 6 meses como puede estar en 2 años.
José Antonio Moreno est propriétaire d'un élevage de 2600 porcs à Villafranca, à 20 km de Saragosse. Les cochons, ce n'était pas son métier. Il était chauffeur routier. Mais pour voir davantage sa famille, il y a 15 ans, il s'est tourné vers l'élevage intégré.
L'entreprise intégratrice me fournit les bêtes, la nourriture, les soins vétérinaires et les médicaments. Elle se charge aussi de vendre les animaux. Moi, je les engraisse. Quand ils partent à l'abattoir, au bout de 5 mois environ, l'entreprise me verse un prix fixé à l'avance. Je touche 11 euros par porc vivant, mais rien pour ceux qui meurent.
Et justement, il y a 2 ans, vous avez eu un problème.
Oui, il y a eu
une inondation. Le fleuve est sorti de son cours. Là où on se trouve en ce moment, il y avait 2 mètres d'eau. Toutes les bêtes se sont noyées. J'étais assuré pour les bâtiments, mais pas pour les animaux. L'entreprise intégratrice n'était pas assurée non plus et elle a exigé que je lui rembourse les porcs. Elle réclamait 200 000 euros. On a fini par trouver un accord et j'ai dû lui donner toutes les aides que l'État m'avait versées.
Malgré tout, est-ce que c'est un travail rentable? Est-ce qu'il vous permet de faire vivre votre famille?
Oui. Comme j'ai beaucoup d'animaux, ça fait des rentrées d'argent importantes. Mais j'ai aussi beaucoup de frais. J'ai 4000 euros de frais fixes chaque mois, qu'il y ait des porcs ou pas. C'est vrai que le travail ne manque jamais, mais cela demande un investissement initial très important. Faire construire la porcherie, la climatiser, acheter les machines, un tracteur, creuser la fosse à lisier, ça m'a coûté 400 000 euros. J'ai souscrit un prêt sur 30 ans.
Et un día, à quoi ressemble l'une de vos journées?
Ce qui compte, c'est d'être vigilant. Il faut venir plusieurs fois par jour. Moi, je viens à 7 ou 8 heures du matin. Je branche l'électricité et tout se met en route tout seul. L'eau, la nourriture, tout est automatisé. Ce n'est vraiment pas compliqué. Là où c'est dur, c'est quand il faut porter les bêtes ou quand, comme en ce moment, il faut nettoyer le lisier et les enclos. En gros, il y a un mois difficile par an. Le reste, c'est la routine. Je fais les horaires que je veux. Je n'ai personne sur le dos. En revanche, je travaille tous les jours, à Noël, au Nouvel An. Je n'ai pas de week-end ni de vacances.
No tiene descanso, no tiene vacaciones, no tiene nada.
Ça, c'est le bâtiment que je dois encore laver. L'autre, je l'ai lavé hier. Il est totalement propre et désinfecté. Aujourd'hui, on est mercredi. Avant-hier, les dernières bêtes sont parties pour l'abattoir. Ici, c'est moi qui fais tout le travail pour ne pas avoir à payer d'employés.
Para pagarlo, prefiero ganarlo yo.
Josep Maria Güell est lui aussi éleveur intégré. Installé à côté de Gérone, non loin de la frontière française, cet ancien producteur indépendant a préféré signer un contrat avec une grande entreprise, le groupe Bataillé, en 2011. Plusieurs années de baisse des prix l'ont convaincu que c'était la meilleure solution, d'autant qu'il allait devoir investir énormément pour se conformer aux nouvelles normes européennes de 2013 sur le bien-être animal. Comme la plupart des exploitations espagnoles, il a profité de ces nouvelles contraintes pour se moderniser.
Nosotros aquí antes teníamos unos patios, los reformamos y pusimos las estaciones estas de comida.
Avant, ici, il y avait des enclos. On a tout rénové et on a installé ces dispositifs d'alimentation électronique. Le groupe Bataillé nous a conseillé sur les changements à faire. Mais c'est nous qui avons tout payé. Les truies mangent quand elles veulent. La machine se met en route à minuit et s'arrête quand elles ont toutes mangé. Quand une truie entre, la porte du box se ferme automatiquement derrière elle. Elle se retrouve enfermée. Elle a sa gamelle devant elle. Vous voyez, elle est là, la gamelle. Sa portion lui est servie automatiquement. Et puis, au bout d'un certain temps déterminé, la porte s'ouvre, la truie sort et une autre peut entrer.
La cerda sale et peut entrer autre.
Vous voyez ce voyant vert sur la machine? Cela veut dire qu'une truie n'a pas mangé. Au bout d'une journée, on va voir ce qui se passe.
Comment savez-vous de quelle bête il s'agit?
Les truies ont une puce à l'oreille droite, comme une sorte d'étiquette. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a des numéros. Parfois, les truies se mordent et perdent leur puce. L'employé de service fait le tour des bêtes pour voir si celle qui n'a pas mangé est blessée ou bien si c'est juste sa puce qui est tombée. L'autre intérêt de cette machine, c'est qu'elle nous permet de transférer les truies à la maternité. Au bout de 110 jours de gestation, quand avec l'ordinateur on a programmé le transfert d'une truie, eh bien cette porte s'ouvre dans l'autre sens. Et au lieu de retourner dans l'enclos avec les autres, la truie se retrouve dehors et on n'a plus qu'à la conduire à la salle de mise bas. Cette machine, elle est aussi très utile pour les vaccins. Quand une truie entre dans le box pour manger, si elle doit être vaccinée, la machine lui met une marque de couleur sur le dos. Comme ça, on sait quelles sont les bêtes qu'on doit vacciner.
Y luego nosotros ya sabemos cuáles tenemos que pinchar.
L'élevage de Rosep Mariaguey dépend donc du groupe Bataillé, une entreprise présente à tous les échelons de la filière porcine. Salvador Bataillé est le gérant de Bataillé Sélection, l'une des branches du groupe.
Nous avons des élevages de sélection génétique et des élevages de multiplication ici à Gérone ainsi qu'à Zamora dans le centre de l'Espagne. Nous avons deux sites de production d'aliments pour le bétail, l'un à Barcelone et l'autre à Gérone, où nous avons également un abattoir qui écoule 10 000 porcs par jour. Nous avons enfin un atelier de découpe et des séchoirs pour le jambon qui, eux, se trouvent à Grenade, dans le sud du pays. Les seules choses qui nous manquent, ce sont des supermarchés et des terres pour y cultiver des céréales.
Être un grand groupe, ça vous facilite les choses lors des négociations avec les supermarchés?
Oui, bien sûr, cela nous aide. Mais nous essayons de vendre le moins possible nos produits aux supermarchés car ils tirent toujours les prix vers le bas. Les négociations sont aussi compliquées qu'en France. Les supermarchés passent leur temps à faire des promotions et nous demandent de nous aligner. C'est très difficile. Et puis nous, on s'est positionné sur des produits de qualité que nous vendons dans des petits supermarchés ou des charcuteries spécialisées. On s'efforce toujours de vendre des produits sur lesquels nos marges sont plus importantes afin de faire vivre toute la chaîne de production. Pour être rentable, on mise sur la qualité plus que sur des quantités énormes.
De cerdo, sino intentar buscar más calidad de producción.
Le cours du porc en Espagne, ou en tout cas le prix de référence, est fixé dans la ville de Lleida, en Catalogne. Une réunion a lieu tous les jeudis après-midi à 16h30 au premier étage du Merco Lleida, l'organisme en charge de fixer ce prix.
Voilà, empezamos. A ver, empiezan los mataderos.
Autour de la table, 8 producteurs et 8 propriétaires d'abattoirs. De quoi garantir un rapport de force équitable. Miquel Angel Berges, responsable du secteur porcin au Merco Lleida.
Le système espagnol n'a rien à voir avec le système français. En France, au marché du porc breton à Plérin, le bétail est vendu aux enchères. Alors qu'ici, les représentants des producteurs et ceux des abattoirs négocient entre eux. Ils fixent le prix du kilo de viande vivante, alors qu'ailleurs, c'est le prix par kilo de carcasse. Le cours peut varier de plus ou moins 6 centimes maximum. Une session dure 2 heures en moyenne, mais cela peut être bien plus si le marché est tendu, jusqu'à 4-5 heures.
Si en sessions plus compliquées, où le marché est plus tenso,
c'est déjà arrivé que des sessions se terminent à 2 heures du matin?
Ah
oui, bien sûr, cela fait longtemps que cela ne s'est pas produit, mais certaines sessions se sont déjà terminées au milieu de la nuit. On a même parfois dû revenir le lendemain matin à 9 heures pour finalement trouver un terrain d'entente en 5 minutes. Certaines sessions sont très tendues. Il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'argent en jeu. Une variation des cours d'un centime signifie qu'un million d'euros passe d'une poche à l'autre. Et en plus, les prix fixés servent de référence au niveau européen et mondial. On arrive toujours à un accord. L'une des règles du Merco Lleida, c'est qu'il doit toujours y avoir un prix. La cotation ne peut pas être suspendue. Dans le passé, pour fixer les cours du porc, faute d'accord, on a dû utiliser un algorithme élaboré par Merco Lleida. Il repose sur des séries historiques et sur les prix de la semaine antérieure en Espagne et chez nos principaux concurrents, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais cela fait un an qu'on ne s'en est pas servi. Et l'objectif, c'est de ne jamais l'utiliser. C'est plus une menace qu'on peut brandir en dernier recours. Pour les deux parties, l'intérêt de négocier les prix, c'est que c'est un gage de transparence et que cela permet une certaine stabilité des cours.
Considérant que tout le monde nécessite d'avoir une référence, surtout pour apporter transparence primero, y luego estabilidad.
Des prix à la hausse depuis un an environ, des coûts de production inférieurs à la moyenne européenne, un cheptel qui vient de dépasser les 29 millions de têtes de bétail, près de 200 000 emplois directs et 2 millions d'indirects. Le secteur porcin espagnol ne cesse de croître. Aujourd'hui, il est tiré par les exportations. La France est le premier client de l'Espagne, mais c'est l'Asie qui dope les ventes. Ce marché en pleine expansion a sauvé la filière après l'embargo russe sur le porc espagnol, décidé par Moscou en 2013 pour des raisons sanitaires. Salvador Bataillé se souvient que sur le moment, le coup a été rude pour son entreprise.
Le 18 mars 2013, no, se cerraron las fronteras y...
Le 18 mars 2013, les frontières se sont fermées. Je me souviens encore de la date. Ça a été terrible pour nous car la Russie, c'était 15 à 20% de nos ventes.
Qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Intentamos buscar otros mercados.
On s'est mis en quête de nouveaux marchés. Par chance, la demande asiatique était en hausse et du coup, notre viande est partie là-bas.
Por allí se fue toda la carne.
Le marché asiatique est très intéressant hein, parce que dans ces pays, ils consomment des morceaux de porc que les Européens ne mangent pas.
Oui, c'est tout à fait exact. Les Asiatiques aiment les abats, surtout les pieds de porc, la queue, les oreilles, les intestins et même les glandes, les ovaires et l'utérus. Pour nous, ce sont des débouchés supplémentaires qui permettent de valoriser les carcasses. Cela nous permet d'augmenter nos marges et notre rentabilité.
Mejores márgenes para poder tener pues bueno una mejor rentabilidad a la empresa.
Les exportations vers l'Asie ne cessent de progresser, plus 126% l'an dernier, rien que pour la Chine. Mais une telle dépendance inquiète certains acteurs du secteur porcin. Autre préoccupation, la gestion des lisiers. Si c'est un bon engrais pour les terres agricoles, à haute dose, son usage est nocif pour l'environnement. Dans certaines régions d'Espagne, les surfaces ne sont plus suffisantes. Alors, il faut trouver d'autres solutions. On se trouve dans l'usine de traitement de déchets de Miralcamp, à environ une demi-heure de voiture de Lleida. Ici, les lisiers de porc sont recyclés, ils servent à produire de l'électricité. On va visiter l'usine avec son responsable, Josep Capdevila.
Les déchets entrent par ici. On peut recycler jusqu'à 110 000 tonnes de lisier par an. Le lisier représente plus de 50% des déchets que l'on traite. L'autre moitié, ce sont des résidus qui viennent d'usines de jus de fruits ou d'abattoirs du coin. Ceux qui nous apportent leurs déchets nous payent pour qu'on les retraite. Cette matière première organique, on la met dans un digesteur, dans lequel elle se décompose. Et c'est comme ça que se forme le biogaz. Au bout de 20 jours, le biogaz passe par les tuyaux que vous voyez là. Dans ce réservoir là-bas, on le mélange à du gaz naturel. Ensuite, ça alimente les moteurs qui produisent de l'électricité. C'est pas bien compliqué. On peut produire jusqu'à 115 000 mégawatts par an, ce qui correspond à la consommation en électricité de 70 000 personnes.
Ici, vous vendez de l'électricité, mais aussi de l'engrais, c'est bien ça ?
Oui, exactement. La partie liquide qui reste au fond du digesteur, elle passe par ces tuyaux-là. On extrait les résidus solides du liquide, on les chauffe et on obtient de l'engrais en granulé. Les agriculteurs apprécient beaucoup cet engrais parce qu'il est riche en matière organique. On produit de 3 à 4 000 tonnes d'engrais par an.
Malgré ces solutions innovantes, la situation est très grave dans certaines parties du pays, notamment en Catalogne. Plus de 40% des nappes phréatiques sont polluées par des nitrates, selon un rapport du défenseur du peuple de la région, qui recommande qu'aucune nouvelle exploitation ne soit autorisée à s'installer dans les zones affectées. Certaines organisations écologistes réclament d'urgence une réduction du cheptel. Johan Vasquez est le porte-parole d'Ipsena, une association basée à Lleida.
En este caso, las ayudas a la...
L'Union européenne, qui verse tant d'aides au secteur agricole, devrait obliger les exploitations porcines à être plus respectueuses de l'environnement et à résoudre le problème des lisiers. L'Europe devrait aussi obliger les éleveurs à produire du porc de meilleure qualité. Le développement rural doit être durable. Ici, pour des raisons économiques et parce que c'est la seule manière de gagner de l'argent, on mise sur la quantité. Mais la viande que l'on produit en Espagne est nocive pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé elle-même l'a dit récemment, trop de charcuterie peut provoquer des cancers. La filière porcine doit changer, sinon elle va mourir. Elle ne sera pas victime de son succès, mais de ses erreurs.
Morirá d'éxito, morirá de fracaso.
Industrie porcine, les limites de la réussite espagnole, un grand reportage de Marine de la Moissonnière, réalisé par Fabien Mugneret et Lorenzo Dami.
Bonjour à tous.